niveau jamais atteint auparavant. Cette augmentation de 13% sur un an s'explique par l'amélioration du recensement.
Que faire des statues ou autres œuvres provenant de notre héritage colonial ?
Une question que se posent aujourd'hui de nombreuses communes. Confrontée à une peinture murale raciste dans une école, la ville de Berne l'a déplacée dans son musée d'histoire. Elle a donné carte blanche à un collectif de militants pour gérer le projet. Après de nombreuses oppositions, des difficultés techniques et financières, le résultat est là. L'exposition « Résistance, comment aborder le racisme à Berne » a ouvert ses portes jeudi dernier. Le collectif tenait à placer cet objet colonial au musée plutôt que de le contextualiser sur place. Les explications d'Isabelle Barros, historienne et membre du collectif.
Il était déjà contesté à plusieurs reprises, déjà aux années 80 par exemple. Il y en a des parents d'enfants, des enseignantes et enseignants à l'école qui ont remis en question la présence de cet objet dans l'école. Donc c'est une école primaire. Ils ont essayé de trouver des initiatives sur place, mais sans aucun succès. Donc par exemple, à un moment donné, ils ont essayé de coller sur la lettre N, un Nashorn, qui est un rhinocéros, pour essayer un petit peu de cacher l'image stéréotypée d'une personne noire. Il y en a eu des expériences, et finalement, ça n'a pas abouti à quelque chose de concret. C'est pas aux enfants et aux corps enseignants de faire cette expérience, de contextualiser, d'avoir cette responsabilité. C'est la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité de toute la société.
Des propos recueillis par Marie Vieumier, l'exposition se replonge dans les conditions de réalisation de cette peinture coloniale, mais elle questionne aussi notre rapport à l'histoire et au racisme, à voir jusqu'en juin 2025 au musée d'histoire de Berne. À l'étranger, le comité international de la Croix-Rouge ne remplacera pas l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le CICR a déjà suffisamment à faire sans chercher à se substituer à d'autres organisations, affirme aujourd'hui son directeur Pierre Krenbull. Les efforts pour parvenir à une trêve dans cette guerre entre Israël et le Hamas à Gaza semble avoir progressé hier. Le mouvement palestinien affirme n'avoir relevé aucun problème majeur quant à une dernière proposition de cesser le feu. À une quinzaine de jours de la course à la Palme d'Or, le 77e Festival de Cannes a annoncé aujourd'hui la composition de son jury, dont fait partie Omar Sy. Le festival, qui se tiendra du 14 au 25 mai, a choisi 4 hommes et 4 femmes qui officieront sous la présidence de la réalisatrice Greta Gerwig, figure du cinéma d'auteur américain devenue reine du box-office avec Barbie l'an dernier. En sport, en football, invaincu durant ce mois d'avril en première ligue, le FC Monté s'est offert une manita hier. Les Chablaisiens se sont imposés 5-0 sur la pelouse de Port-Alban Glétran. Grâce à ce succès, les joueurs de Lucien Desnervaux grimpent au 12e rang du classement et prend 12 points d'avance sur le premier relégable Puy. Et le Vevey Sport, 5e, s'est pour sa part imposé 2-0 face à l'équipe qui occupe la 2e place, les moins de 21 du FC Sion.
En février dernier, l'UHC Jauny et les Raptors de Vevey avaient annoncé leur fusion.
Le nouveau club Unihockey Riviera Jauny-Vevey est désormais prêt à s'imposer sur la scène sportive régionale. Et c'est mercredi le 1er mai qu'il sera officiellement actif pour marquer pleinement cette nouvelle étape de vie. Une journée de fête était organisée hier à Saint-Léger-la-Chiesa. L'occasion d'échanger sur les enjeux du sport dans la région, mais surtout de dévoiler la nouvelle identité visuelle, symbole de l'avenir de cette pratique sportive sur la Riviera. Un programme qui a réjoui Marc Chapuis, actuel président de l'UHC Jauny et futur co-président du nouveau club.
Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir aussi à voir l'engouement qu'il peut aussi y avoir autour, alors aujourd'hui du dévoilement, mais aussi pour la suite. On a eu beaucoup aussi de retours positifs, puis c'est des choses aussi qui nous portent et c'est des choses qui nous permettent aussi de sentir qu'on est dans le juste et puis qu'on... Voilà, le fait de prendre du temps, le fait de réfléchir, et ben finalement, ça parle aussi aux gens. Donc ça peut que nous réjouir.
Prendre du temps en collaborant, c'est ce qu'ont fait les deux clubs de Jauny et Vevey durant 4 ans, avant de fusionner. Alors à savoir si cette dernière était finalement une issue attendue, l'actuel président des Raptors de Vevey et futur co-président du nouveau club, François Chapuis, a sa réponse.
Au départ, si on nous avait dit qu'on fusionnerait aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas cru. Mais effectivement, plus le temps a avancé, plus les choses se sont mises ensemble, plus on a compris que ce qu'on faisait portait en fait les gens et puis développait notre sport et c'était positif. Bah pour nous, c'est devenu de plus en plus rapidement une évidence qu'il fallait qu'on puisse renforcer nos collaborations, ce qui s'est traduit par une fusion qui aujourd'hui paraît évidente effectivement. Et puis c'est pour ça qu'on est d'autant plus réjouis d'y être arrivé.
Un sujet préparé par Julie Gay.
Le Français Dorian Godon a remporté hier au sprint la cinquième et dernière étape du Tour de Romandie à Vernier.
Au classement général, par contre, c'est l'Espagnol âgé de 23 ans, Carlos Rodriguez, qui s'impose au terme de cette ultime étape pluvieuse et mouvementée. Car avec 5 coureurs en 30 secondes, la course était loin d'être jouée avant le départ. Le commentaire à ce sujet de Richard Chassot, directeur de la manifestation.
C'est vrai que c'était humide et mouillé, mais un accueil très chaleureux de la région. Sur le parcours, un public très présent, avec beaucoup d'animation, des décorations. Donc une bienvenue au Tour de Romandie qui était fantastique. On avait déjà fait un premier départ ici à Vernier pour les femmes l'année passée en septembre. Et là, on a vraiment... c'est un gros projet, hein, départ et arrivée. Et puis un parcours un peu spécial pour une course par étape, parce qu'on a fait un circuit de 40 km dans la campagne genevoise. Mais le mauvais temps, je pense, nous amenait deux choses. Premièrement, une forme de classique, donc dans le sport, vraiment quelque chose qui était encore un suspense jusqu'à la fin, qui était difficile à gérer pour les équipes qui étaient à l'avant. Donc un peu de tension, un peu de suspense jusqu'au bout. Et puis évidemment aussi de montrer que la campagne genevoise, c'est pas plat. Les coureurs ont dû vraiment faire attention à pas perdre le Tour de Romandie sur cette dernière étape. Aller le gagner, il fallait attaquer. La situation de course avec un coureur d'Ineos et deux coureurs de Bora, 7 secondes ou 9 secondes derrière, était vraiment pas gagné pour Ineos. Par chance, j'ai envie de dire pour eux, ils ont une équipe qui est très très forte, solide. Ils savent gagner des grandes courses par étapes. Rodriguez est un solide champion, un solide leader. Et puis, il y avait plein d'attaques. C'est toujours difficile de tout maîtriser. Et puis, dans le final, on l'a vu, hein, ça attaquait encore dans le final jusqu'au dernier kilomètre. Donc, pour un leader, c'est toujours... Voilà, on est, mais nous, la dernière étape reste une étape. On veut qu'elle soit disputée dans une manière sportive.
Des propos recueillis par nos confrères de OneFM et Radio Lac.
L'actu en continu, radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Mais...
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Michaël Caillou, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Morel, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on fait une petite exception dans cette émission en recevant deux personnes, deux artistes qui nous convient au crochetant à un foisonnement naturel. Les murmures de la forêt, c'est le titre de cette exposition autour de Bambi. Alors, c'est peut-être un peu court de dire autour de Bambi, Michaël Caillou, mais tout de même, déjà, vous avez le mérite de nous rappeler que Bambi, avant d'être un Disney, c'est un livre et qu'il a 100 ans, enfin, il a eu 100 ans en 2023.
En 2023, et en fait c'est à l'occasion de la sortie de ce livre donc qui fêtait les 100 ans cette année que j'ai eu l'occasion de proposer à Frédéric de venir avec moi au Crochetant et d'exposer ensemble nos œuvres et d'être en immersion dans une sorte de forêt un peu fantasmée.
Fantasmée, foisonnante. Moi j'ai ce mot foisonnant dans la tête.
On peut parler de cela aussi. Un peu parfois inquiétante, un peu parfois solaire. Voilà.
Bon, Frédéric Morel, Bambi, ce personnage qui est dans l'imaginaire collectif, il vous a touché tous les deux ou
Oui, il nous a touché tous les deux parce que je travaille aussi sur la nature, la chasse, la forêt. Donc le livre mettait en relief aussi le côté inquiétant de la chasse, et je connais Michael depuis très longtemps et je suis infiniment reconnaissante de m'avoir invité parce que l'expo est merveilleuse.
Alors en effet, c'est une expo originale hein, pour le Crochetant.
C'est original. Alors tout a été fait main dans la main avec Julien Hontou, commissaire de l'exposition. Et en fait, on a créé au fur et à mesure les décors, les œuvres. Pour la plupart, étaient déjà créées parce qu'en fait, le livre est sorti en octobre dernier. Et moi, en plus du livre, donc j'ai fait les illustrations, j'ai fait un travail de gravure et Frédéric a déjà travaillé depuis longtemps autour de pas de Bambi, mais comment on pourrait dire, autour de... Oui, comme
si,
tu disais...
Bambi, c'est mon icône, c'est ma pièce principale.
Voilà, c'est la pièce principale.
Bon, on va expliquer un petit peu. Hein. Vous avez évoqué un livre, on en parlera, la vraie histoire de Bambi. Vous nous rappelez justement qu'il y a ce roman avant le Disney des années 40. Et puis, vous, Frédéric, alors, vous êtes dans Allez, une sculpture tapissière.
Oui, alors c'est des formes.
Pas pâtissière, tapissière.
C'est des formes réalistes, puisque c'est les formes qui servent aux taxidermistes. Et après, je leur fais raconter une histoire, qui peut être une histoire de l'au-delà, de leur vie passée. Et c'est à base de tapisseries populaires, qu'on appelle parfois les canevas.
Bon, je vais décrire un peu, parce qu'on n'a pas l'image. Hein, oui. À la radio, on a en taille réelle
des animaux,
principalement. Des animaux à bois, hein. On est dans l'univers de Bambi, donc des cerfs, des biches, et vous avez utilisé le mot taxidermiste,
oui.
On pourrait imaginer qu'il y a un animal mort sous vos tapisseries, c'est pas le cas, hein. Les taxidermistes travaillent avec des canevas.
Ils revivent justement, ouais. Parce que les canevas permettent de raconter leur histoire, parce qu'il y a des motifs, il y a des références très connues aussi dans ces motifs populaires, donc je re-raconte une histoire comme une bande dessinée en collant ce textile sur les formes.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la tapisserie? Enfin, ce sont des tapisseries anciennes, on voit, ce sont pas des...
Vintage, parce qu'il y en a des très anciennes qui sont plutôt dans le secteur de la décoration, mais c'est justement ce côté populaire, ce côté que les gens aiment et que tout le monde peut aborder. Voilà. Tout le monde peut aborder.
Ouais, il y a un côté simple d'accès, en effet. Voilà. Il y a un côté un peu désuet aussi,
oui,
dans la tapisserie.
Voilà,
hein.
Oui, je l'assume. Je revendique.
Vous utilisez vintage, qui est un mot peut-être un peu plus glamour. Bon, alors ça, c'est pour l'aspect en trois dimensions. Hein. Ce sont des sculptures qui ponctuent l'exposition de Michaël Caillou. Vous, alors, on est dans le dessin d'abord, puis. Alors, vous allez m'expliquer, parce que moi, je n'ai pas les termes techniques, je ne suis pas historien de l'art. Tout cela se termine parfois en gravure sur métal, sur du qu'est le métal, du bronze.
Alors c'est du cuivre.
Du cuivre.
Donc en fait moi à la base je travaille tous les dessins. En fait là en l'occurrence c'était donc on parlait du livre tout à l'heure. Moi je dessine tout au feutre fin et après j'ai plusieurs particularités dans mon travail, c'est que à la base ces dessins sont faits pour que je puisse faire mes gravures. C'est qu'en fait c'est des ébauches, des croquis à la base qui sont devenus après du design, parce qu'en fait au fur et à mesure du temps des éditeurs sont venus me voir en me disant mais vos dessins nous intéressent pour des éditions. Donc premièrement j'ai fait les illustrations de ce livre et j'avais envie, parce qu'en fait moi je connaissais pas Bambi, l'histoire de Bambi en fait, en réalité, parce que ma mère m'a fait zapper.
Bah alors ça on en parlera tout à l'heure, c'était intéressant.
Parce qu'elle voulait pas que je vois, donc j'ai jamais vu Bambi, en tout cas quand j'étais petit. Et donc du coup, De La Chaux m'a proposé il y a 2 ans de faire ce livre. Et donc
c'est l'éditeur.
L'éditeur. Et j'ai découvert cette histoire. Il y avait beaucoup de similitudes avec. Bon, je ne suis pas un chevreuil, mais j'ai été élevé tout seul par ma mère, etc. Et au départ, je ne sais pas, je me suis un peu identifié à Bambi. Je me suis dit, c'est presque moi, mais bon, voilà.
Bon, on va parler de Bambi et de son impact. Hein, tout à l'heure, on a tous un petit traumatisme, probablement.
Lié à cette histoire-là. J'ai pas eu ce traumatisme.
Dans votre travail, vous disiez, il y a une partie un peu cabinet de curiosité comme ça où on voit les dessins en détail des animaux, hein. C'est le début de l'expo d'ailleurs.
Alors, c'est le début d'expo, en fait c'est un côté un peu didactique,
ouais.
Dans le sens où en fait on montre comment je travaille, Julia,
les études des différents animaux qui ensuite vont être intégrés.
Je pars toujours du dessin et après ça devient soit des gravures, soit des sculptures, plutôt des bas-reliefs, soit des illustrations, soit ça peut aller jusqu'à l'édition de produits. Moi, j'aime bien un peu avoir une vision à 360 degrés de mon métier. Et donc là, comme on m'a proposé de faire l'illustration, et que j'étais un peu touché par l'histoire, j'ai eu envie de travailler sur la gravure, qui est plus mon travail personnel plastique. Et donc là, j'ai fait mes dessins, j'ai reproduit mes dessins par la gravure, en découpant le métal, en gravant, en imprimant et en mettant en relief mes cuivres, qui devient un peu une sorte de bas-relief.
Ouais, ça, il faut expliquer. Voilà. Hein, les cuivres, donc, c'est ce qui permet d'imprimer une série de... Comment on appelle ça? De gravures.
De gravures. Moi, c'est des gravures à l'eau-forte.
Voilà. on les numérote, ça c'est le principe. Et puis après, dans l'éthique du métier, on devrait les tracer ou les détruire pour pas pouvoir les reproduire à l'infini et qu'elles perdent de la valeur pour ceux qui les ont achetées, acquises. Vous vous dites, bon, non, je vais pas tracer, c'est quand même du boulot, mais je vais en faire une autre œuvre en fait.
Bah, à la base, si vous voulez, moi ce qui m'intéressait quand j'ai fait la gravure, c'était la matrice en cuivre qui devenait une sorte de bijou. Voilà. Et donc, effectivement, quand on fait de la gravure, on détermine un nombre d'exemplaires d'impression et on raye la plaque pour déterminer la valeur.
Voilà.
Par honnêteté. Ouais. Et puis, moi, effectivement, je vais pas rayer parce qu'en fait, au préalable, je les découpe. Donc, c'est beaucoup d'heures de. En fait, j'ai fusionné deux techniques, la découpe du bijou à la main et la gravure à l'eau forte. Et donc, du coup, je passe énormément de temps à préparer mes plaques. Donc, évidemment, j'avais pas envie de les rayer.
Ouais, mais c'est pas deux coups de scie, hein. C'est vraiment pointilliste ce que vous faites. C'est de la dentelle, hein.
Et donc, pour ne plus imprimer, parce que je reste quand même, c'est au code de la gravure, au lieu de les rayer, je les met en volume par des systèmes de repoussage, de ciselage, qui est des techniques de bijoux. Donc je mélange vraiment le bijou et la gravure à l'eau forte. Voilà.
Vous êtes un artisan-artiste, un artiste-artisan
Je serais mon propre artisan. Donc voilà. Non, je dirais que plasticien. C'est qu'en fait, ce que j'aime bien, moi j'ai eu des formations où Frédéric était un de mes professeurs. Donc,
oui, il y a cette relation entre vous.
Moi j'ai fait une école où on touchait tous les supports, en fait, où il n'y avait pas de limite entre tel ou tel secteur, on va dire. J'ai même fait un peu de mode, j'ai même un peu. C'était une époque où on gravitait un peu sur l'environnement. Voilà. Donc,
ça s'appelait mode et environnement.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, je vais plus aller dans la plasticité, plus dans la gravure et parfois plus dans le design. Pour travailler avec des éditeurs.
Je vais vous donner aussi un peu des cours maintenant.
J'en ai donné avant.
La pédagogie. Bon, mais en tout cas, vous, Frédéric Morel, c'est une part importante de votre vie d'artiste. Hein. La pédagogie, le fait de transmettre.
Oui, et la transmission, bien sûr, c'est un mot qu'on emploie bien beaucoup en ce moment, mais c'est absolument nécessaire si on veut faire la chaîne des savoirs, la chaîne des excellences, parce que là, c'est un peu ça. Je rappelle, Michael était un étudiant exemplaire, et il a su ouvrir sur sa vie d'artiste, sur ses thèmes qui étaient déjà embryonnaires dans son travail et qu'il a su développer parfaitement dans la durée.
C'est pas commun, je suis pas vraiment baigné dans ce monde là mais c'est pas commun, une ancienne professeure qui expose avec son ancien étudiant.
À ce niveau là on apprend plus, c'est un dialogue entre le professeur entre guillemets, parce qu'il ne professe pas en fait, il essaye d'organiser ce qui est proposé par l'élève.
Et maintenant, vous apprenez de votre ancien élève.
Exactement.
On va dire disciple, c'est bien disciple.
Oui, disciple, je ne sais pas. Parce que...
Moi, je dirais un peu mon mentor. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est un peu, par exemple, cette exposition, le fait que Julia ait accepté Frédéric dans l'aventure, j'ai l'impression d'arriver à une étape. Moi, je rêvais de faire une exposition avec Frédéric parce que je la suis depuis très longtemps. Enfin, je la suis à l'école déjà. Je savais qu'elle faisait des créations. À l'époque, elle faisait pas ça. Mais déjà, c'était très. Je m'interrogeais comment elle pouvait faire ces espèces de structures, de feutres, très, très. Blanc, mais en même temps avec un raffinement. Donc j'ai toujours été, et puis en fait on a eu j'ai eu un crush avec elle quand j'étais à l'école, et donc du coup moi quand j'ai découvert ce travail il y a quand même maintenant pas mal de temps, travail sur le canevas, je sortais presque de l'école, t'étais déjà en parallèle.
Ça se concrétise maintenant avec une exposition commune. On travaille ensemble. Comment ça se passe? On va faire une exposition ensemble. Quel est le déroulement finalement? Vous avez un thème commun pour l'occurrence, c'est Bambi, c'est la forêt, les cervidés. Et vous travaillez chacun de votre côté. Vous vous rencontrez, vous vous montrez ce que vous faites. Comment ça se passe?
Là, en fait, le travail était la question était de savoir comment associer. Puis en plus, il y avait aussi Maya, où j'en parlerai après, qui a fait un travail de motion design sur le livre. Donc c'est mon ancien élève. Donc il y a
une histoire de la vidéo,
de la vidéo. Et donc il y a un dialogue, mais en fait, nous, on a échangé par des mots. En fait, on s'est dit, on veut quelque chose qui soit immersif, où on rentre dedans, quitte à que ça soit brouillé, que ça soit du mimétisme de l'animal sur le mur. Et donc on s'est dit, on partait sur une forêt un peu autour des quatre saisons quand même, qu'on ouais, a une sensation parce que le livre c'est quand même un éternel recommencement.
Moi j'ai jamais vu ça non plus, mais c'est il y a derrière les œuvres des papiers peints qui ont été réalisés exprès pour pour l'expo, hein, qui sont dans cet univers-là, qui ont les couleurs chaudes de l'été, de l'automne, froides de l'hiver.
Alors c'est pas des c'est des papiers peints parce que c'est
le
support.
J'avais peur en utilisant le mot papier peint qu'on me dise mais non monsieur c'est pas du papier peint.
C'est pas du papier peint parce qu'en fait c'est pas vraiment au raccord, mais c'est des panoramiques on va dire, c'est des mais c'est en fait, normalement, ça peut être de la toile ou là, c'est du papier peint parce que techniquement, c'était. Mais ça pouvait, effectivement, les gens pourraient.
De Bondy pourrait très bien décorer son salon avec ce papier.
Parfaitement, hein, parfaitement.
Si vous rencontrez un psychopathe de Bambi,
faut avoir
lancé un business de papier peint. Soyons clairs.
Bon, moi, j'en ai déjà fait du papier peint. Hein, c'est un des. Mais là, pour le coup, c'était de panoramique, mais c'est le nouveau papier peint, les panoramiques.
Donc, bon,
vous n'êtes pas complètement.
Par rapport au lieu, c'est impressionnant. Ouais. Hein, on est vraiment en immersion, c'est le mot que tu employais.
À la galerie du Crocheton jusqu'au 12 juillet, à voir hein, cette exposition. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette vidéo.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, on se retrouve toujours dans cette galerie du Théâtre du Crocheton à Monthey avec cette exposition Les Murmures de la Forêt autour de l'univers de Bambi avec nos deux invités Michaël Caillou et Frédéric Morel, les deux artistes de cette exposition à voir donc jusqu'au 12 juillet prochain à Monthey au Théâtre du Crocheton. Foisonnant, luxuriant, on l'a dit, moi j'ai lu et j'ai vu hein, ce lien avec l'art nouveau, avec alors j'ai regardé un peu, moi j'ai une mémoire artistique de Trivial Poursuite un petit peu hein, mais Klimt, Mucha, j'ai vu des portraits de femmes luxuriants, foisonnants. Est-ce qu'il y a ce lien à la nature aussi dans l'art nouveau
Alors l'art nouveau, moi je suis plutôt Lalique. Donc en fait, parce qu'à la base, moi ce qui m'intéressait dans l'art nouveau, c'était les peignes. Moi j'ai tout un travail autour de ça, c'est le point de départ de mon travail, on va dire, artistique. Et après ça a évolué, en fait c'est des codes, c'est-à-dire qu'en fait l'art nouveau c'est un peu une façon de composer, le végétal devient la structure. En fait, l'art nouveau, c'est la structure devient esthétique. Et donc moi, je me suis surtout inspiré pour mes plaques de métal en fait, où d'un seul coup c'est une seule pièce et tout s'enchaîne. Voilà. Et donc c'est là où l'art nouveau pour moi est. J'ai pas forcément nécessairement dans la représentation humaine, même s'il y a des parties de corps. Moi, je travaille beaucoup les ex-voto, etc. Toi non plus. On la retrouve des fois dans les.
Il y a des mains, il y a des.
Voilà. Mais c'est évoqué, c'est-à-dire que de toute manière.
Bon, là, on est dans l'univers de Bambi où on sent que l'homme n'est pas loin, hein, parce qu'il est le méchant dans l'affaire.
Il est là, il est partout. Il est partout.
Il est sous-entendu.
Sous-entendu par le danger, par exemple, il y a des représentations avec des serpents pour Frédéric. C'est le danger, et puis bon, de toute manière, dans le roman initial de Félix Alten qui a écrit Bambi, c'est un roman d'éducation pour montrer que la nature n'est pas si merveilleuse que ça. Au contraire, elle peut être dure. Elle peut être dure en réalité. Donc
on va revenir à Bambi, mais j'aimerais juste un mot encore. Frédéric Morel, on s'inscrit forcément dans l'histoire de l'art. Quand on crée, on a des références en tête, ou est-ce qu'il faut, une fois qu'on les a étudiées, qu'on les connaît, il faut les balayer, il faut les mettre de côté?
Quand on n'a pas de référence, on est dans l'art brut, qui est d'ailleurs un merveilleux musée à Lausanne. Oui, on a des références très fortes à l'art en général, et on se situe, ou pas d'ailleurs, mais il y a une influence.
En l'occurrence, c'est Julia hein, qui a fait le dossier que moi j'ai lu, et probablement qui a illustré un peu cette exposition, et c'est elle qui m'a amené vers cette notion d'art nouveau. Elle est importante, cette notion, pour vous, création.
C'est mon point de départ. C'est qu'en fait, moi avant, j'étais, parce que j'ai eu plusieurs carrières, on va dire, où j'ai toujours travaillé personnellement sur mes thématiques, etc. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de travailler justement cette gravure, ce travail de découpe en métal. Et mon point de départ, c'était une exposition aux Arts Déco où il y a une pièce permanente de bijoux. Et j'avais vu ces fameux peignes sur le mur, et donc je me suis dit, je vais travailler la gravure comme des bijoux muraux. Et donc c'est toujours là. Mais moi, depuis longtemps, mes thématiques, c'est mes vacances, je dessine tout, partout où je suis, donc en fait, mais je pense qu'inconsciemment, elle revient dans mon travail. Mais ça fait longtemps que l'Art Nouveau est, on va dire, sous-jacent, mais pas forcément, à chaque fois, je vais pas me dire, ah, là, je fais de l'Art Nouveau.
Il faut que je sois un peu plus Art Nouveau, voilà.
Pas du tout. Mais bon, c'est par
évidemment, on crée son univers avec son bagage.
Existe avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'esthétisme, ça m'a toujours intéressé. J'adorais, on a eu des cours sur Guimard, sur moi, je suis très déçu à Paris, on a retiré, par exemple, toutes les entrées de métro, Art Nouveau, par exemple,
des choses très, très bonnes.
Donc il y a un côté un côté désuet dans mes goûts, voilà, de
nostalgie. Une nostalgie. Bon, parlons de Bambi, quelle affaire ce Bambi. Je vous en veux un petit peu de m'avoir remis dans mes traumatismes d'enfant, on a tous.
Oui, moi aussi, c'est un traumatisme.
Mais oui, bon, alors,
moi,
voilà,
j'ai pas eu de traumatisme.
Oui, mais justement, c'est intéressant parce que je me demandais, en venant vous voir, est-ce qu'on peut encore montrer Bambi, là, pour le coup, le dessin animé, ou lire le livre, parce que la cruauté, j'imagine, du meurtre de la maman, on va dire les mots, et là, dans le livre aussi, bien sûr. Est-ce que c'est encore abordable pour un enfant du 21e siècle? Même on a voulu vous éviter ça.
Alors, je pense que c'est extrêmement moderne, surtout avec les évolutions pédagogiques, je ne sais pas comment dire, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais je vois mes amis autour de moi qui ont beaucoup d'enfants. C'est, à la base, Félix Salten, pour lui, c'est un roman d'éducation. Donc, et il faisait parler les animaux pour dire des choses. C'est vrai que moi, j'avais une lecture assez, on va dire, neuve. J'avais pas forcément connu.
Le dessin animé, vous l'avez pas vu, donc vous n'étiez pas dans cet univers-là. Ouais.
Alors après, si vous voulez, j'ai des images, c'est-à-dire que je voyais Bambi, on m'en a parlé, il y a la mort de la mère, etc. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu, mais tardivement, donc ça m'a pas perturbé plus que ça.
Mais ça, je pose cette question parce qu'on a quand même une littérature destinée aux enfants. Si on prend les contes du 19e, c'est extrêmement cruel. La mort est là, toujours. Et puis, on a dilué ça au 20e siècle. On s'est éloigné de la mort. Vous nous le démontrez, là, avec Bambi.
C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui me fait peur, c'est la mort, évidemment. Mon travail, c'est justement... Hier, on me disait, c'est assez marrant parce qu'il y a quand même assez un contraste avec le travail de Frédéric qui peut parfois être plus inquiétant. Moi, mon travail beaucoup plus, on va dire, de façon extérieure, plus facile, plus enfantin.
Dans le livre comme dans l'expo, les enfants vont pas être confrontés à une image de mort brutale. Il n'y a pas de sang qui gicle, etc. C'est plutôt suggéré.
Ouais. C'est plutôt de l'humour, je pense. Mais en fait, il y a quand même une thématique. Moi, c'est des natures mortes, par exemple. Je travaille. Ma signature, c'est la mouche. Donc déjà, c'est quelque chose qui était pas forcément qui était en lien avec mon travail personnel et après je pense que avoir peur c'est pas forcément nécessairement bien, c'est qu'en fait il faut aussi que les moi j'ai perdu ma mère assez tardivement et justement ma mère m'a tellement protégé que ça a été un énorme choc. Donc parfois il vaut mieux savoir ce que c'est, enfin de façon pédagogique. Et c'est vrai que ce genre de livre, quand on le lit, on dirait que la violence elle est plus entre les animaux que finalement. Et c'est vrai que Walt Disney en a fait quelque chose de très édulcoré, parce qu'en fait finalement ce qui est choquant dans ce dessin animé c'est la mort de la mère. Mais c'est quasiment ce qu'il a gardé uniquement de l'histoire, alors que si on lit l'histoire globalement, on est dans un roman.
C'est ce qui a marqué tout le monde.
Voilà, on est dans un roman qui est tout à fait. Il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que la mort de la mère. La mort, c'est une anecdote dans le livre. Après, c'est vrai que cette histoire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, en fait, c'est un truc qui est difficilement supportable, c'est que le roman lui-même a été autodafé en 1933.
Voilà, il faut expliquer. Voilà. Hein, auteur juif, viennois, expatrié en Suisse.
Voilà, exactement. Et donc, je trouve qu'en résonance avec la société actuelle, le fait de censurer quelque chose, je me suis dit, faut en parler, faut faut parler de cette histoire. Et c'est vrai qu'on a Walt Disney, mais que le roman est beaucoup plus plus intéressant, on va dire moins.
Bon, c'est un hold-up, voilà. Walt Disney. Hein
C'est un hold-up.
Frédéric, oui, un mot là, il a déjà l'acquisition. Enfin, il était un peu désespéré, hein, l'auteur du livre.
Il avait besoin d'argent.
Fin de vie, il avait besoin d'argent. Les droits ont coûté très peu cher. Et puis, ce film en 1942 a complètement occulté le livre.
Occulté et oui, pour 1000 francs. Je pense que malheureusement Félix Salten n'a pas bien vécu à la fin de sa vie. Il a fallu qu'il travaille, qu'il fasse beaucoup d'écrits. Parfois, c'est aussi un personnage un peu trouble. Le fait qu'on censure une œuvre comme celle-ci en disant que les Allemands seraient les chasseurs et que
c'est étrange.
Moi, j'ai pas eu cette lecture-là.
Lui-même est chasseur, donc. C'est une espèce de confrontation.
Donc c'est pas forcément les méchants, les chasseurs.
Lors de la vie, on dirait.
Laissez parler Frédéric un peu. cet ancien disciple qui monopole le crachoir, c'est fou ça.
Justement, moi je suis invitée et je me laisse bercer par ces thèmes communs. Mais voilà, dans le livre de Salten, c'est quand même tous les thèmes un peu de la vie avec leur ambivalence. Il y a une ambiguïté entre le fait d'être chasseur et de parler avec la forêt. Mmh.
Voilà. Vous êtes des personnages de nature. Vous êtes tous les deux parisiens, hein, je crois.
Moi, je suis né à Paris.
Parce que moi, il y a un truc qui me frappe aussi quand je vois l'aspect foisonnant. Alors moi, depuis que j'ai un petit chien, je vais beaucoup me balader dans la nature. Et l'empreinte de l'homme est partout. Et le foisonnement, tel qu'on le voit chez vous, tel qu'on le voit chez le douanier Rousseau, par exemple, même si c'est un peu plus exotique, il n'existe plus vraiment. On n'entend plus tellement de bruit. Les animaux se sont retirés. On les a chassés loin. Y a un rapport à la nature chez vous? Ou il est imaginaire, il est lointain?
Alors, il y a un rapport à la nature, parce qu'en fait, je vis à Paris, mais je pars en vacances, je voyage. Je vois les. Voilà. Alors, c'est vrai que la nature, c'est plus à Paris, c'est plus dans les parcs, etc. Mais il y a un côté très fantasmé, parce que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu de façon au quotidien. Voilà. J'ai suffisamment voyagé pour un peu.
Bon, je ne vous fais pas de procès en citadin qui n'aurait pas le droit de parler de la nature. Vous nous proposez de très belles images, hein, qui font appel à notre imaginaire d'ailleurs pour figurer ces murmures de la forêt. Moi j'ai une petite suggestion. Vous avez d'autres univers qui vous... Parce que là je regarde et j'ai vu, il y a un autre centenaire l'année prochaine, il faudra bosser vite parce que c'est l'année prochaine, L'enfant et les sortilèges de Ravel. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre. Il faut vous y intéresser, votre univers irait tellement bien avec ça.
Voilà. Ok, très bien.
Bon, il faut bosser là-dessus.
Ok.
Vous reviendrez.
Alors, j'ai déjà deux petits projets, mais je note.
Bon, cette exposition, Les Murmures de la Forêt, jusqu'au 12 juillet, au Théâtre du Crocheton, la Galerie du Crocheton. Vous verrez, c'est très très beau. Voilà.
Merci. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre.
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, des fois, c'est pas bien de traduire les chansons d'amour. C'est pas... Non, parce que si, par exemple, je te dis... Éteins les lumières. N'essaye jamais de te résister. Oh non. Oh, laisse l'amour venir briller dedans nos vies. Encore. Pendant que j'ai dit, je t'aime. Et je veux que tu le saches maintenant. Oh, je t'aime. Je veux te donner de l'amour. Je veux te donner du bon amour. On est d'accord qu'il y a un truc avec notre slogan à nous, là. Suivez-nous, on vous suit. Un truc un peu inquiétant. Alors que pourtant, la chanson, à la base, elle est magnifique. Bon, ben, on va l'écouter. Hein. Des fois, c'est pas bien de traduire les chansons d'amour. Même pas bien du tout.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre.
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais. Programme de nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Philippe Duvanel, directeur ici du château de Saint-Maurice, nouvelle expo ZEP, installée depuis quelques jours maintenant. Alors, pourquoi déjà ZEP ? Est-ce que c'était normal ? C'était un vœu longtemps attendu.
C'est vrai, depuis le début que j'ai pris les fonctions au château de Saint-Maurice, je voulais faire une exposition autour de ZEP et je suis ravi de pouvoir la faire.
ZEP, bien sûr, c'est Titeuf, mais en fait, on découvre ici, dans l'exposition à Saint-Maurice, beaucoup plus que Titeuf. Il est sorti, bien sûr, de son personnage, il a su nous montrer d'autres choses, et en fait, c'est un personnage, ZEP lui-même, multifacette, un multitalent, un multi-esprit.
Oui, c'était le but de l'exposition, de montrer effectivement ces multifacettes, de regarder ZEP autrement que par le prisme de Titeuf, mais regarder aussi ses dessins d'observation, ses dessins d'arbres, ses récits en dessin réaliste, ou alors finalement son humour pour les grands à travers Episex, Epiparents ou alors Epiwork.
Parce que justement, on a l'impression que ZEP peut parler de tout avec une vraie tendresse, une vraie humanité, puis une vraie vérité.
Et une vraie simplicité, absolument. C'est un homme très sincère dans son travail et dans le regard qu'il porte sur l'être humain. Il a beaucoup de bienveillance et puis il le regarde avec beaucoup de douceur.
Et puis alors, il le regarde avec beaucoup de douceur, mais aussi, bien sûr, avec un esprit critique, une grande intelligence. Là aussi, on découvre ça, bien sûr, quand on sait lire Titeuf entre les lignes, mais aussi quand on lit l'autre univers de ZEP, les autres univers de ZEP.
Oui, Titeuf, c'est pas uniquement une littérature pour les enfants, bien au contraire, moi, c'est multigénérationnel. C'est vraiment quelque chose qui raconte beaucoup de choses sur la vie, sur l'existence, sur la faille, sur la solitude de l'enfance. Et puis tout le reste de son œuvre à Philippe, effectivement, c'est bienveillant, mais c'est jamais non plus niais. C'est même très critique et ça peut tout d'un coup être vraiment des coups de gueule contre quelque chose qui le touche profondément.
C'est quoi le premier souvenir de ZEP pour vous? Est-ce que c'est Titeuf? Ou vous qui êtes un passionné de BD, il y avait peut-être d'autres choses. Ici, c'est Titeuf. C'était quoi le premier souvenir de Titeuf?
Le premier souvenir de ZEP, pour moi, c'est de l'avoir rencontré à Paléo. Mais ça, c'était après avoir découvert son œuvre. Je travaillais pour Paléo, je l'avais rencontré. Il m'avait beaucoup impressionné. J'étais ravi de le rencontrer. C'est un homme extrêmement solaire, très particulier. Hein. Je veux dire, quand on le rencontre, c'est quelque chose de très fort qui se passe. Et puis en termes de lecture, effectivement, le premier Titeuf m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, c'est une bombe. En fait, c'était transgressif, c'était quelque chose qui libérait l'enfance, qui la racontait avec vraiment sincérité et puis clairvoyance. Donc ça m'a beaucoup touché. Mais avant cela, mon premier souvenir de ZEP, eh bien, c'est finalement Léon Coquillard. C'est l'album qui avait été édité par le GSSA pour Une Suisse sans armée. Et ça, c'est très drôle.
Ça va totalement avec le personnage. Dans cette exposition, qu'est-ce que vous avez voulu montrer en plus de, bien sûr, l'univers, le multifacette, toutes ces choses dont on vient de parler, mais c'est quoi pour vous les forces de l'exposition ?
Bien, c'est montrer l'éclectisme de l'auteur, effectivement sa possibilité, sa capacité à pouvoir s'adresser à plusieurs publics et pas uniquement aux enfants, et puis sa capacité surtout à raconter l'enfance avec beaucoup de naturel et de sincérité.
On se réjouit ici de justement venir découvrir, parce que c'est typiquement le genre d'expo que vous proposez à chaque fois. Mais peut-être encore plus là, on va venir en famille, mais on va venir entre potes. On va venir à tous les âges, on va venir, comme on a l'habitude de le dire peut-être, de 7 à 77 ans, mais beaucoup plus en fait, bien avant et bien après.
J'espère que ce que vous dites va se réaliser, mais effectivement, c'est disons la marque de fabrique du château, c'est de pouvoir, et c'est pas forcément simple à faire, mais de réunir un assez large public avec les Schtroumpfs. On avait vraiment réuni des gens de une année et demie à pratiquement 87 ans, et puis là j'espère qu'on pourra faire de même.
Merci Philippe Duvanel.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril
sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le Mag, c'est la plus belle région au monde, le Chablais, la Riviera et le Pays d'en Haut, raconté par la rédaction de Radio Chablais. Et les lundis, c'est sport, parce qu'on aime bien commencer la semaine dans l'effort, ça rend les week-ends meilleurs. Et toute la famille va s'y mettre dès aujourd'hui, puisque la 3e édition de la semaine valaisanne du sport est à vivre dans tout le canton jusqu'au 4 mai. Différents événements pour le grand public se déroulent un peu partout en Valais, avec notamment les Family Games ce samedi à Sion, mais des conférences thématiques destinées aux professionnels sont également au menu, avec notamment la présence du judoka médaillé olympique Sergueï Ashvenden. On en parle avec Xavier Borgeot et Grégoire Girillo, une des chevilles ouvrières de la semaine valaisanne du sport.
Grégoire Girillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport en Valais, et c'est la 3e édition de la semaine valaisanne du sport. On va revenir peut-être à la genèse de ce projet. Pourquoi une semaine du sport en Valais ?
Alors, une semaine du sport, pour parler positivement du sport déjà, mettre en valeur nos sportifs, notre jeunesse, et parler des valeurs que véhicule le sport.
Et c'était important de mettre une semaine sur pied comme ça ?
Oui, donc à l'instar de la semaine du goût, la semaine contre le racisme, on parle de la semaine du sport, parce que le sport c'est très important pour le département, pour l'État, pour notre canton.
Alors comment il se porte ce sport en Valais ?
Ils se portent bien. Je dirais au niveau du sport de masse, nous avons la chance d'avoir 115 000 adhérents à des clubs affiliés à des fédérations, donc c'est beaucoup. Nous avons également à peu près 60% des jeunes de 5 à 20 ans membres d'un club de sport. Là, vous me direz, que font les 40% restants? Ben, ils font du théâtre, ils font de la fanfare. Et malheureusement, un 10% ne fait rien.
Donc c'est sur ce 10% que vous tablez?
Alors, on va essayer de les sensibiliser. Déjà, donc, dans l'idée, c'est de mettre sur pied un projet pilote pour le sport scolaire, pour préparer éventuellement une fête fédérale en 2028. Mais là, on va voir si on peut faire progresser ça. On n'a pas beaucoup de succès en Valais dans ce niveau-là, mais notre travail, c'est de sensibiliser les écoles, les profs de sport, pour dynamiser ce projet.
Alors justement, vous parlez de ce travail qui est effectué sur le terrain. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec les écoles, avec les établissements, avec le canton pour ça?
Alors en principe, nous travaillons avec les fédérations sportives, les piliers du sport. C'est elles qui enseignent le sport. Nous, on les aide à financer certains projets, à financer des formations de moniteurs. Donc nous, c'est important que les clubs aient des moniteurs de jeunesse sport formés, gages de qualité.
Et c'est difficile ça?
Non, je dirais c'est... En fait, le canton répond aux besoins des fédérations. Nous n'avons jamais refusé à une fédération un cours jeunesse et sport, même si parfois c'est des cours qui coûtent assez cher, mais nous faisons l'effort pour pallier le manque dans certaines fédérations orphelines. Parce que les petites fédérations, c'est compliqué de mettre sur pied des cours. Là, l'Office cantonal du sport les aide.
Alors, on l'a dit, c'est la troisième édition de cette semaine valaisanne du sport, sans aller dans trop de détails, mais quel sera le programme de cette semaine?
Alors, l'idée, c'était de dire... un jour, une activité sportive, ou une conférence, ou quelque chose. Donc on a commencé, bien sûr, par la demi-finale de coupe Suisse, avec le résultat que l'on connaît. Également le départ du Tour de Romandie, exactement, le départ du Tour de Romandie à Saillon, qui était un beau succès. Donc ce soir, lundi, nous avons le kick-off de l'Eurofoot féminin 2025 au stade de Tourbillon. Là aussi, un beau projet pour le Valais et pour le sport féminin, que le canton encourage. Demain soir, nous avons une conférence et une démonstration sur la lutte suisse à Viège, donc là, en allemand. Donc là, nous avons la chance d'avoir un roi de la lutte suisse qui sera là. Également, on parlera, donc il y aura une démonstration d'abord avec des jeunes et des moins jeunes, puis ensuite une conférence sur comment devient-on couronné fédéral. Donc c'est clair que c'est en vue d'eux, hein. Peut-être en 2031, on aura la fête fédérale de lutte suisse à Sion ou ailleurs. Donc c'est important pour nous de préparer tout ça. Mercredi, un grand moment aussi, nous avons une démonstration sur les sports de tradition. Donc, sport de tradition, ça veut dire la boxe, ça veut dire le karaté et le judo, avec des champions qui seront là pour montrer un petit peu leur sport. Et après, pour débattre, c'est les valeurs qu'inculquent ces sports de tradition, comme on peut appeler. Jeudi, un grand moment aussi, nous avons les fameux mérites sportifs valaisans au baladin, où nous sommes sold out pour la première fois. Le baladin sera plein, joli. Plein comme un œuf. Donc là, c'est le but que m'avait assigné mon chef de département, de remplir le baladin. Il sera plein avec...
Donc, objectif atteint.
Objectif atteint pour moi, mais on verra maintenant concrètement comment ça se passe. Où on aura aussi le plaisir de mettre en valeur des jeunes sportifs talentueux et des sportifs avérés qui ont fait... rayonner le Valais ailleurs dans le monde.
C'est vrai que ça, c'est important, hein, de pouvoir mettre en avant les ambassadeurs, finalement, du sport valaisan.
Bien sûr, parce qu'un champion de sport met en valeur le canton, puisque le slogan du canton, c'est Valais actif, Valais sportif. Donc c'est clair, pour nous, on a le plus beau stade du monde, les Alpes. Donc là, on met en valeur, évidemment, c'est plus facile pour nous d'avoir un champion de ski qu'un champion d'haltérophilie, on est d'accord, mais on met tout en place pour que même un champion d'haltérophilie puisse devenir champion d'Europe ou ailleurs. Donc on met en valeur ces sportifs et des équipes aussi, sport handicap. Mon chef de département va attribuer un prix valeur sportive. Donc c'est le terme valeur sportive, c'est pas seulement des résultats, c'est aussi une éthique.
Bon, c'est aussi un état d'esprit, hein,
exactement.
C'est extrêmement
important.
Et puis
un prix spécial à deux personnalités du sport qui sera dévoilé jeudi soir. Et samedi, très important, nous avons les fameux Family Games à Sion, où là on attend toutes les familles, tous les amis, pour venir s'essayer à 20 sports différents sur la place du C.
On sent en tout cas l'enthousiasme chez vous. Et on va peut-être rappeler que c'est sur inscription, donc les gens peuvent venir.
C'est gratuit.
C'est gratuit, donc, mais c'est sur inscription.
Bien sûr, et malheureusement, jeudi soir, c'est complet.
Et jeudi soir au baladin, c'est complet. Grégoire Girillo, merci beaucoup pour toutes ces informations. On le rappelle, vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport du Valais. Et c'est la troisième édition donc, de cette semaine sportive en Valais. On vous souhaite plein succès avec cette semaine.
Merci à vous et vive le sport.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On passe à présent au ring hockey dans ce mag spécial sport du lundi, parce que de toute façon, les lundis, c'est sportif et c'est pas fastoche de commencer la semaine. Et là, peut-être aujourd'hui, encore un petit peu moins. Mauvaise nouvelle, le retour du Montreux HC en LNA de ring hockey ne sera malheureusement pas pour tout de suite. Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc. Effectivement, les joueurs de la Riviera ont été éliminés samedi par Puy au stade des demi-finales de play-off de la 2e division nationale. Une défaite 5-4 après prolongation, entachée d'une potentielle erreur d'arbitrage sur le but décisif. Le club s'est d'ailleurs réservé le droit de déposer protêt. Réponse dans quelques jours. Mais pour le moment, c'est l'amertume qui prédomine pour le Montreux HC. Les Vaudois sont éliminés alors qu'ils ne visaient rien d'autre que la promotion. Julien Massy s'est entretenu avec l'entraîneur de l'équipe, Rui Kova.
Grégoire Girillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le chef de l'office cantonal du sport.
Très amer. C'était un match qu'on était obligé de gagner. C'était un match qu'on a donné un mi-temps d'avance comme le match allait à l'équipe adversaire. Et la deuxième mi-temps, on a fait un très bon deuxième mi-temps. Cette équipe méritait plus que ça. L'équipe passe devant le résultat. Après, il prend un but à la fin. L'équipe marque un but pour égaliser le match. Après, on a concret des opportunités pour marquer, pour tuer le match. Penaud, cage ouverte. Et on n'arrive pas à marquer. Après, avec une erreur d'arbitre à la fin, on prend un but.
Justement, votre équipe, elle a montré du caractère. Vous êtes mené 2-0 à la mi-temps, vous êtes mené 3-1, vous revenez au score. Ça, c'est la force de votre équipe cette saison?
Je ne dirais pas la force parce qu'on est habitué à passer à gagner, on est habitué à gagner le match. Je pense que mon équipe, elle a montré qu'il y a du caractère, il y a de l'envie qu'on a besoin. Parce qu'il y a des matchs comme ça, il faut avoir. Et l'équipe, elle a tout fait pour gagner le match. Elle a tout fait.
Il y a eu des opportunités, vous l'avez dit, en fin de rencontre, vous avez réussi à prendre de l'avance. Ne pas réussir en prolongation à garder ce petit but d'avance, c'est ça qui vous coûte le match aujourd'hui?
Oui, c'est ça qui nous coûte cette match aujourd'hui. Et à ça, il n'y a pas que le but d'avance, il y a aussi le péno qu'on rate, il y a aussi des cages ouvertes qu'on rate. Et voilà, et quand tu rates autant d'occasions comme un match comme ça, le match peut tomber par un côté ou l'autre. Et c'est ça que l'équipe adversaire a fait. Avec un petit erreur et avec la chance, ils ont arrivé devant, mais la chance, elle se cherche.
Cette série de demi-finale de play-off face à Puy, elle se solde par une défaite 3-1. À quel moment, selon vous, vous laissez échapper votre chance de remporter cette série?
Je pense que déjà, le premier match, on n'était pas à notre niveau chez eux. Après, à la maison, le moment qu'on gagne 2-1, il y a 10 minutes de la fin, on prend 3 buts d'ensuite, notre erreur aussi. Je pense que c'est après ce deuxième match qu'on n'a pas réussi à gagner chez nous, qu'on méritait gagner en plus. C'est là que je pense qu'on a perdu cette série.
Une demi-finale face à un adversaire qui géographiquement est proche, un derby, ça mettait un petit peu de piquant en plus?
Je pense que l'équipe elle a senti ça, oui. Pour moi non, parce que pour moi j'ai envie de gagner tout le match, n'importe si c'est ici à côté, c'est d'autre côté de la Suisse. Oui, les joueurs, ils ont senti, je pense, un peu ça, et ça se voyait aussi pour le supporter qui était dans la tribune. Mais voilà, l'équipe, je pense aussi que les joueurs sont dépassés un peu plus, ils ont donné un peu plus. Et voilà, je pense que c'était un derby.
Maintenant, la saison est terminée. Quel bilan à chaud, vous, l'entraîneur, vous tirez de cette saison avec le Montreux Hockey Club?
Déçu, pour ne pas arriver à notre objectif. Parce que la vérité, c'est qu'après tout ce qui est arrivé depuis le début de la saison, que j'ai 9 matchs, c'est notre gardien titulaire. Je joue avec un gardien qui a 16 ans, qui a joué la plupart des championnats. Arrivé de la première 4 places, je peux être fier de mon équipe. Mais déçu parce que cette équipe méritait plus. On a montré dans la piste qu'on méritait plus qu'arrêter ici à demi-finale avant de jouer la finale.
L'objectif en début de saison, c'était la promotion. Cet objectif, il n'est pas atteint. Ça vous laisse quel sentiment?
Un peu de tristesse parce que j'ai appris l'équipe, ça fait 2 ans. Cette équipe, elle a beaucoup évolué. C'est plus les gamins que j'ai appris qu'ils avaient 17 ans et 18 ans. Ce sont des jeunes hommes qui ont de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils ont beaucoup progressé. Ils ont joué mieux, ils sont, que je dis, c'est déjà quelque chose. Et cette équipe, je pense qu'elle mérite plus que ça. Et c'est pour ça que je suis triste. parce que je sais que cette équipe mérite plus que l'MD.
Et pour vous, la suite, c'est de rester à la tête du Montreux Hockey pour la saison prochaine, de travailler sur une nouvelle équipe, d'apporter 2-3 petits changements. Comment vous voyez l'avenir ?
Déjà, je peux rien dire. Il vient de finir la saison. Normalement, oui. Je reste comme entraîneur. L'année prochaine, je peux jouer parce que j'arrête d'être étranger aussi. Je pense, mais après le reste de la saison, pour la saison prochaine, on va réfléchir, on va parler avec la direction, on va essayer de faire le mieux pour que ça soit mieux pour l'équipe.
Le mieux, c'est d'essayer de trouver quelques éléments qui peuvent bonifier l'effectif ou d'aller avec les jeunes, de faire rentrer des jeunes dans l'effectif pour le futur.
Pas forcément chercher des gens. Je pense que les joueurs ils progressent toutes les années, ils sont en train d'améliorer. Chaque année, pas obligé d'aller chercher des joueurs, mais s'il faut, pour améliorer l'équipe, on discutera sur ça avec la direction.
Et les objectifs resteront les mêmes, aller chercher cette place en Liga ?
Toujours le même, il n'y a rien qui change.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Et pour terminer ce mag sportif du lundi, on va parler de basket. Thierry Nicolet, tu reçois le nouveau président fraîchement élu du BBC Monté-Chablais.
Effectivement, Claude Petit a été plébiscité mercredi dernier lors d'une assemblée générale extraordinaire pour être le successeur de Laurent Duchoux. Il en a même profité pour présenter ses projets futurs pour le club de sa ville. Claude Petit, bonsoir.
Bonsoir.
On l'a dit, président du BBC Monté-Chablais, c'est quelque chose que vous auriez voulu, que vous auriez imaginé. On le rappelle, vous êtes membre du comité depuis 2 ans, maintenant président, c'était une volonté de votre part ?
Alors, c'était pas forcément au départ une volonté. Quand je suis rentré il y a 2 ans au comité, effectivement, Laurent Duchoux avait déjà annoncé qu'il allait faire 4 ans, donc il faisait encore 2 saisons. Après, on se posait la question, est-ce qu'il allait quand même continuer ou pas ? Et puis, en début de la saison dernière, il a clairement annoncé lors de l'Assemblée Générale que c'était sa dernière saison.
Et puis là, vous vous êtes dit, ça pourrait être moi ?
Alors, j'ai clairement, dans les discussions que j'ai eues avec Laurent, je lui ai dit que j'étais disponible, pas forcément vraiment tout de suite intéressé, mais disponible, en disant que s'il y avait une candidature, une personne qui s'annonçait et qui voulait prendre à tout prix prendre la présidence, c'était pas une ambition démesurée de ma part, et puis je serais volontiers resté au comité.
Oui, bah on le dit, on vous appelle maintenant président du BBC Monté-Chablais. C'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut impressionner. Vous le voyez comment, ça ?
Non, moi, je pense ça plutôt comme un défi, comme une chance aussi de pouvoir m'engager encore plus que je l'ai fait jusqu'à présent pour ce club qui est mon club depuis plus de 50 ans, puisque j'ai fait toutes mes classes de basket au BBC Monté. Et puis c'est vrai que c'est aussi une occasion pour moi de retrouver tous ces gens, les amis, les anciens du club, très vite autour du club depuis bientôt 50 ans comme moi.
Si vous deviez décrire le BBC Monté-Chablais en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez justement ? Vous l'avez dit, c'est toute une partie de votre vie.
Alors c'est une grande partie de ma vie. C'est vrai que ça fait 50 ans que je vis le basket d'une manière ou d'une autre. Alors d'abord comme joueur, ensuite comme spectateur, parce que c'est vrai que c'est pour moi c'est vraiment le sport que j'apprécie le plus. Et quand j'ai l'occasion d'aller voir, j'ai eu l'occasion d'aller à NBA voir des matchs aux États-Unis, je vais souvent en Italie aussi voir des matchs. Donc c'est vrai que pour moi ça reste un sport spectaculaire et magnifique.
Si y a des souvenirs comme ça dans vos plus jeunes années du BBC Monté-Chablais, dans les récentes aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant ?
Alors peut-être 2 souvenirs. Bah effectivement, avec mon frère jumeau, on était intégré à la première équipe dans les années 80, l'année de l'ascension, puisqu'à cette époque Piero Vanès désespérait un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs suisses qui étaient soit à l'école de crue, soit en cours de répétition, donc il n'arrivait pas à former, à avoir 10 joueurs sur sa disposition pour pouvoir faire les systèmes et puis entraîner l'équipe. Et puis à l'époque, moi j'étais étudiant au collège de Saint-Maurice, et c'est vrai qu'on allait à l'époque encore au collège le samedi matin, et quand on faisait faire les déplacements à Lugano, bien, il fallait obtenir une autorisation spéciale du pro-recteur de l'époque pour être libéré le samedi matin pour rejoindre l'équipe et puis faire le trajet jusqu'au Tessin.
Ouais, bah, c'est une sacrée anecdote en tout cas, de quoi fatiguer quand même un peu, on imagine aussi. On a parlé de ce rapport que vous avez avec le BBC Monté-Chablais, votre point de vue personnel sur ce club. Parlons du club en lui-même, sportivement. C'est la saison 2023-2024.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit. Smile, but it's just fake.
in the switch. I can't stay on your morphine, 'cause it's making me